Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les monothéismes, c'est-à-dire les religions qui ont un dieu unique, sont depuis quelque temps l'objet d'un vrai discrédit pour la violence qu'elles ont engendrée dans l'histoire et qu'elles continueraient de susciter par le statut sacré des textes qui les inspirent, le sentiment de vérité et de supériorité qui habiterait chacune d'entre elles. Sur le banc des accusés, le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est l'approche reprise dans le débat suscité par un agnostique, Jean-Pierre Castel, auteur de plusieurs ouvrages sur la violence religieuse, qui a interpellé trois représentants des religions monothéistes. Alors, dans l'ordre chronologique, le rabbin David Meyer, un prêtre catholique, le frère dominicain Jean-Michel Maldamé, qui est théologien, et un universitaire tunisien, Abderrazak Sayadi, spécialiste de la civilisation arabe et de la pensée islamique, historien des religions, aujourd'hui professeur à l'université La Manouba de Tunis. Tous trois donc ont répondu sur la violence monothéiste. Ce sont donc des échanges tout à fait érudits que l'on peut retrouver dans le livre « Lutter contre la violence monothéiste, trois voix répondent à 10 questions » et c'est publié aux éditions L'Harmattan. Alors, deux absents dans autour de cette table, le frère dominicain Jean-Michel Maldamé, qui vit à Toulouse, et puis Abderrazak Sayadi, donc qui vit à Tunis. Mais deux présents, vous, Jean-Pierre Castel, et puis David Meyer, que nous connaissons bien, vous êtes venu souvent à RFI pour vos livres. Donc, on commence avec vous, Jean-Pierre Castel, puisque vous êtes l'initiateur de ce projet, de cette interpellation à donc trois représentants des trois monothéismes. Alors, je précise que vous êtes un scientifique, ce qui est intéressant quand même dans votre démarche et ce qui explique probablement un certain nombre de choses, et que vous êtes agnostique. Vous êtes aussi, j'allais presque dire, très incisif, assez remonté quand même à l'égard des monothéismes.
Écoutez, j'ai pris conscience en m'intéressant un peu à l'histoire de l'Europe, de la succession des violences religieuses depuis la christianisation de l'Empire romain. Les conversions forcées, la chasse aux hérétiques, les guerres de religion, l'éradication des religions indigènes dans les colonies. Tout ça m'a un peu impressionné. Et donc j'ai cherché si c'était simplement des conjonctures politiques et sociales, ou s'il y avait un facteur récurrent à la clé. Et j'ai commencé par regarder comment s'était passé l'histoire dans les autres régions du monde, s'il y avait eu les mêmes conversions forcées, guerres de religion. Et je suis arrivé au constat que non, les autres, le polythéisme de manière générale, n'a jamais connu les guerres de religion, ni les conversions forcées. Et donc j'en suis venu à chercher les causes dans la nature même de ces trois religions monothéistes. Et je suis arrivé sur un fait qui me paraît tellement évident que je m'étonne qu'il ne soit pas plus discuté, c'est l'exclusivisme de ces trois religions qui est illustré par le dieu jaloux. Aucune autre religion au monde n'a inventé un dieu jaloux. Donc vraiment, le dieu jaloux, le dieu qui qualifie de fausses les autres religions et qui invite à aller combattre les autres religions, c'est vraiment une spécificité à ces trois religions. Donc à partir du moment où je suis arrivé à ce constat, je me suis dit que ma voix toute seule avait peu d'effet. Ce que je cherchais, c'était des remèdes. Et je me suis dit que les mieux à même de trouver des remèdes seraient des représentants de ces trois religions. Et donc je suis allé à la recherche et j'ai été très heureux de trouver David Meyer, Jean-Michel Maldané et Abderrazak Sayadi pour accepter de travailler avec moi sur comment lutter contre la violence monothéiste.
Alors, Jean-Pierre Castel, il faut quand même préciser que ce livre a été difficile à faire. D'ailleurs, on le voit, pour être franche, on le voit dans la lecture, c'est-à-dire qu'il y a une part très importante consacrée au judaïsme, grâce à vous, David Meyer. Et puis après, bon, avec le christianisme, Jean-Michel Maldamé, et puis avec l'islam, donc Abderrazak Sayadi, la partie est plus faible, c'est beaucoup moins développé et les réponses sont moins étayées.
Alors j'ai laissé la liberté à chacun des trois représentants.
Oui.
Mais les questions étaient les mêmes à chacun et chacun a répondu en toute liberté. Alors j'ai été, je dois le dire, émerveillé, admiratif du travail du courage de David Meyer.
Oui, c'est pas nouveau, oui.
Jean-Michel Maldamé, j'ai eu d'excellents rapports avec lui. C'est un homme d'une courtoisie et d'une amabilité exceptionnelle. Mais Je dois dire que le dialogue a souvent été, comme avec tous mes collègues théologiens chrétiens, tous mes correspondants, pardon, théologiens chrétiens, un peu un dialogue de sourds. Bon. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à nous comprendre. Du côté de l'islam, donc j'ai cherché d'abord à intéresser des nouveaux penseurs, les fameux nouveaux penseurs de l'islam. Trois d'entre eux m'ont donné leur accord enthousiaste au projet, et puis ont disparu dans la nature sans explication. Et donc finalement, j'ai été heureux de trouver Abderrazak Seyadi, qui n'est pas un théologien, mais qui est un historien, et qui a accepté de reprendre le flambeau.
Oui, donc courageusement c'est... aussi, oui.
Absolument. Oui, et qui, dans le texte, je trouve, alors c'est pas un texte de théologien, mais je trouve que son texte est extrêmement instructif, je pense même pour la plupart des musulmans, et extrêmement courageux.
Alors, David Meyer, je me tourne vers vous. Vous êtes un rabbin libéral. Vous avez vécu une dizaine d'années en Belgique. Hein, vous aviez une communauté. Aujourd'hui, vous enseignez la littérature rabbinique et la pensée juive contemporaine à l'Université pontificale grégorienne à Rome. Vous avez aussi, alors ça c'est pas précisé dans le livre, mais bon, je le sais parce qu'on se connaît, vous avez vécu en Israël, vous avez la double nationalité, vous avez fait le service militaire. Et tout cela vous a amené effectivement à une ouverture, une approche souvent différente, hein, très très particulière, très personnelle du judaïsme. Vous avez écrit, c'était il y a une dizaine d'années, on s'est rencontrés à ce moment-là, à l'occasion de ce livre, un livre qui m'avait beaucoup marqué, qui s'intitulait « Les versets douloureux ». C'est-à-dire que c'était un peu la même approche. Ce livre réunissait trois personnes représentant donc les trois religions monothéistes, et chacun d'entre vous revenait sur ce qui était compliqué, hein, sur les parties compliquées dans chaque religion, les parties, eh bien effectivement, qui étaient violentes, hein, dans les textes sacrés, et cela pour l'Ancien Testament et également pour le Coran. Est-ce que vous considérez que cette démarche à laquelle vous vous êtes prêté là est la même ?
Elle est similaire dans l'approche au départ, mais elle est fondamentalement différente dans la façon dont le problème a été traité. Et quelque part, c'est ça ce qui m'a intéressé. Lorsque j'avais contribué au verset douloureux à l'époque, c'était en 2008, l'idée pour moi, c'était effectivement d'abord de reconnaître ce que Jean-Pierre Castel nomme la responsabilité du texte, de dire que, évidemment, il y a des textes et il y a des passages qui sont évocateurs de violence et qui même parfois sont plus qu'évocateurs de violence puisqu'il y en a qui commandent, qui semblent en tous les cas commander la violence, que ça soit dans des textes de la Torah, dans des textes de la Bible ou bien évidemment dans des textes rabbiniques qui sont plus tardifs. Mais mon approche à l'époque, ça avait été de dire mais ça c'est vrai, mais finalement la tradition des commentaires rabbiniques a toujours trouvé un moyen, avec des espèces d'astuces interprétatives, de contourner la problématique de façon à faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, et donc de dire aux fidèles, de dire au lecteur de la Bible, au lecteur juif de la Bible, à un auditoire juif de la Bible, en disant, même s'il est écrit ça, en fait, ce n'est pas ça que l'on fait. Et cette approche par l'interprétation m'avait semblé être... d'abord très profondément ancrée dans la tradition juive, donc j'avais voulu la mettre en avant, et puis elle m'avait semblé être convaincante. Et je suis toujours, d'ailleurs, d'une certaine façon, convaincu de la véracité de cette approche. Mais mon dialogue avec Jean-Pierre Castel a été d'une autre nature. Parce que, d'abord, il m'a dit, ce n'est pas seulement quelques versets ici et là, c'est le fond du problème de la structure même du texte. Donc il ne s'agit pas d'aller chercher un verset à droite, à gauche, et la problématique que Jean-Pierre Castel évoque à présent, aujourd'hui, sur le rappel de ce Dieu jaloux de la destruction des eaux, évidemment ce n'est pas que quelques versets, c'est quelque chose qui revient de façon très...
C'est le fond de la marmite, quoi.
C'est le fond de la marmite, d'une certaine façon, c'est le fond de la marmite. Alors, heureusement, ce n'est pas le seul fond, c'est une marmite à plusieurs fonds, ce qui permet de s'en sortir. Mais... d'abord, donc, de dire, finalement, il faut prendre le problème à bras-le-corps et pas simplement vers des versets isolés. Et puis, deuxièmement, la chose qui m'a le plus touché dans l'approche qu'il me proposait, c'était de dire, l'approche interprétative, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant face à l'ampleur du problème. Parce que l'ampleur du problème, c'est qu'aujourd'hui, et je mets l'accent sur le mot aujourd'hui, il y a, y compris dans le judaïsme, une violence qui est commise au nom de la religion. Et cette violence-là, elle n'est pas nécessairement commise par une intellectualisation du judaïsme ou des juifs érudits qui connaissent les chemins interprétatifs pour contourner la violence, elle est commise par le fidèle lambda de certaines communautés juives qui lisent un texte ou écoutent un texte qui dit « tu tueras ci, tu tueras ça, tu feras disparaître ci, tu feras disparaître ça » et qui quelque part considèrent que ben voilà l'autorisation est donnée. Et donc j'ai cherché à aborder la problématique de la violence non plus au niveau de l'intellectualisation du texte, mais au niveau de quelle est la responsabilité du texte tel qu'il est, tel que je le lis, tel que je l'entends dans les synagogues, et éventuellement, lorsque je trouvais des pistes de solutions, d'essayer de les proposer. Donc à ce sens-là, l'approche était pour moi très différente et très complémentaire de ce que j'avais fait il y a une dizaine d'années.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Alors, Jean-Pierre Cassel, on va revenir sur la méthode. D'abord, vous avez voulu une sorte de symétrie, alors que bon, finalement, on peut se dire que actuellement, malheureusement, d'ailleurs, les musulmans sont bien les premiers victimes, c'est l'islam qui est essentiellement touché par cette question de la violence. Avant, le christianisme, effectivement, n'a rien à envier. Hein, le christianisme est passé, effectivement, par cette période de violence. Mais vous avez quand même voulu cette symétrie, aujourd'hui, au XXIe siècle, pourquoi ?
Oui, parce que je suis arrivé plutôt à la conclusion que les trois textes sacrés, les trois religions, partagent les mêmes ingrédients de base qui, ensuite, en fonction du contexte social, politique, etc., sont toujours à même de produire cette violence. Et donc, ces ingrédients à la base, c'est la prétention à la vérité unique, c'est le Dieu jaloux, c'est, comme je l'ai dit, considérer toutes les autres religions comme fausses et à éradiquer. Donc, ces éléments-là sont présents.
C'est le dénominateur commun.
Dans ces trois textes. Et alors, si l'Europe chrétienne est sortie de la violence, je ne pense pas qu'on puisse en attribuer le crédit aux autorités religieuses. Hein. Si la fin des guerres de religion, ce ne sont pas les églises qui ont mis fin aux guerres de religion, ce n'est pas l'église qui a été à l'origine de la laïcité, la séparation de l'église et de l'État. Et si en 1965 seulement, l'église catholique a fini par accepter la liberté de conscience, c'est assez tard et c'est sans enthousiasme partagé, disons.
Bon, alors, on peut aussi vous retourner les arguments, et d'ailleurs David Meyer le fera très bien pour le judaïsme. D'ailleurs, c'est ce que dit, c'est ce que rappelle Jean-Michel Maldamé. Il y a quand même dans le Nouveau Testament les attitudes de Jésus, ce qu'il va prédire, le serment sur la montagne, sur la justice sociale, son attitude contre la violence, contre la femme adultère qu'on veut lapider. Tout ça, ce sont dans les textes.
Ah oui, mais
on peut dire quand même que vous prenez le pire des textes, et même d'ailleurs vous citez Saint François Xavier. Alors là, j'étais étonnée, j'ai appris ça, qui se réjouissait quand l'évangélisation se déroulait. Je pense que c'est en Asie, c'est ça. Eh bien, qui est que des petites baraques avec des idoles
la destruction des idoles,
etc.
D'une jubilation.
J'ai appris ça avec vous.
Il écrit ça.
Mais là, vous expliquez ce qui vous arrange.
Bien sûr que ces textes sont à charge, parce que ce qui nous a intéressé tous les quatre, c'est de lutter contre la violence. Notre but n'était pas de faire un bilan globalement positif
ou moins,
négatif,
de
savoir ce qu'il y a de bien dans ces religions. Évidemment qu'il y a des choses bien dans ces religions. Notre but était de les soigner de leur propension à la violence. Alors chacune des trois religions prône l'amour du prochain, mais en même temps la mort de l'idolâtre. Donc chacune contient cette injonction paradoxale.
Le prochain peut être idolâtre, oui, ou l'idolâtre le prochain, oui, bien sûr, oui.
Donc c'est contre cette injonction paradoxale que nous avons cherché à travailler.
Ce dieu jaloux, pourquoi vous l'appelez jaloux? C'est un dieu plutôt dominateur, parce que jaloux.
Moi qui l'ai inventé, ça, c'est dans la Bible.
Pourquoi vous le reprenez?
Parce que ça me semble l'illustration, je sais pas si c'était la cause, mais enfin c'est l'illustration emblématique de cette propension à exclure tous les autres et à vouloir imposer sa vérité au monde.
Ce terme Dieu jaloux, David Meyer?
C'est un terme qu'on retrouve bien évidemment dans le récit biblique et en tous les cas dans les traductions que l'on a de cette terminologie en hébreu. Kana, la jalousie. Donc effectivement, on est quand même confronté à l'existence de cette terminologie. Ensuite, l'intérêt de la lecture juive, si vous voulez, d'un texte biblique, à travers un regard rabbinique en tous les cas, c'est la mise en perspective d'un verset par rapport à un autre verset, de façon à responsabiliser le lecteur. Et Jean-Pierre Cassel et moi, on a eu de très longues discussions, soit parfois en vis-à-vis, mais souvent par email, de désaccords fondamentaux sur cet aspect des choses. Parce que, pour moi, la problématique, c'est que le judaïsme a su, pendant des siècles, responsabiliser ses lecteurs. Et je ne parle pas simplement d'une population érudite minoritaire. il y avait un système d'éducation dans le judaïsme qui permettait de créer ce qu'on appelle un lecteur fort et pas un lecteur faible. C'est-à-dire un lecteur qui connaît non seulement les versets à charge, et Jean-Pierre Castel a raison de les rappeler, mais comme vous le rappelez aussi, les versets à décharge qui viennent dire exactement l'opposé. Et la problématique, ce n'est pas simplement de dire « Tiens, la Bible dit n'importe quoi parce que l'un s'oppose à l'autre », c'est de dire « Qu'est-ce que moi je fais en tant que lecteur lorsque je suis confronté à deux versets qui disent des choses opposées ? Quel est mon choix de responsabilité individuelle en tant qu'être humain par rapport à ce que le texte me propose ? Choix de la violence, choix de la liberté. Comment élucider la violence à travers le choix de quelque chose qui ne soit pas là ? Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et ça permet de remettre ça dans une perspective historique, c'est que pendant tous ces siècles, le judaïsme a réussi à le faire. Mais la violence religieuse commise au nom du judaïsme, elle n'est que récente et elle n'est que moderne. Bien sûr, c'est lié à un contexte politique que l'on connaît. Essentiellement, c'est lié au contexte du Moyen-Orient. Ça, c'est évident et on le sait. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus fondamental qui doit interpeller très profondément le judaïsme. C'est de dire comment se fait-il qu'aujourd'hui, fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, le judaïsme ait perdu sa capacité à créer des lecteurs forts et responsables et à engendrer un certain nombre de ses fidèles dans une lecture passive sélective et donc pour le coup les versets et donc fondamentaliste reprenant ces versets mais qui pour le coup ne les considère pas à charge et qui se croit autorisé de faire au nom de. Et là il y a une vraie interrogation sur le fond du judaïsme, il y a quelque chose qui marche plus. Dans le judaïsme.
On en reparlera d'ailleurs, parce que c'est effectivement, c'est un point très intéressant, David Meyer. Jean-Pierre Castel, moi je pense beaucoup à la lecture du Coran aujourd'hui aussi. C'est quand même ce que vous dites, David Meyer, interpelle inévitablement le musulman. Jean-Pierre Castel.
Oui, de ce point de vue-là, il est très intéressant de voir comment les trois religions ont réagi par rapport à cette violence du texte, et effectivement, elles ont réagi de façon totalement différente. Donc, le judaïsme, c'est, David Meyer vient de l'expliquer, le développe dans son texte, donc, a de fait réagi contre cette violence et a réussi, au moins pendant plusieurs siècles, à la neutraliser. Le christianisme a développé toute son exégèse, donc a fait et a également accepté, depuis deux ou trois siècles, l'analyse historico-critique des textes, ce qui va dans le sens d'une désacralisation des textes sacrés, qui me semble être une direction possible. Quant à l'islam, lui, il s'est enfermé depuis le XIIIe siècle. Il a connu une période d'ouverture et de méthode historico-critique avant la lettre au 9e, 10e siècle. C'était la période mutazilite. Et puis, il s'est refermé avec la thèse du Coran incréé.
Vous en tapez sur le micro même.
Excusez-moi. Et donc, l'islam, malheureusement pour lui, enfin, le monde musulman, s'est enfermé dans un conservatisme et une doctrinale dont il n'est pas sorti aujourd'hui.
Oui, avec une lecture passive, en fait, que la lecture passive que vous décrivez,
oui,
David
Meyer.
Oui, moi
pour réagir à ce que j'entends aujourd'hui et qui sont des arguments de Jean-Pierre Castel que je connais, je pense qu'il y a plusieurs enseignements qu'on peut en tirer. Le premier, c'est que bien évidemment, la recherche de la création d'un lectorat fort et critique, c'est quelque chose que l'islam connaissait très bien, bien évidemment. Et la littérature, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de l'islam, mais je connais quand même suffisamment pour savoir l'existence d'une littérature interprétative extrêmement vaste.
Oui, au Xe siècle.
Bien sûr, et qui permet toutes sortes d'interprétations par rapport à ce qui est écrit et qui avait son propre succès. Donc ça, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que les succès du passé ne sont pas des garanties du succès d'aujourd'hui.
Absolument.
Donc ce qui est vrai pour le judaïsme est bien évidemment vrai aussi pour l'islam. Mais là où je voudrais réagir surtout, c'est la problématique de l'approche historico-critique du texte, parce que c'est un des grands chevals de bataille de Monsieur Castel, qui pense que l'approche historico-critique qui va détruire d'une certaine façon le statut du texte, donc la sacralité du texte, puisque vous voyez dans le texte sacré, dans sa sacralité, l'une des causes de cette violence, parce que que dire face au texte sacré, c'est un peu ça. Je crois que là, on a une approche tout à fait fondamentalement opposée. Non seulement parce que je considère que, bien sûr, mon esprit scientifique me suffit pour comprendre que l'approche historico-critique est historiquement et scientifiquement tout à fait valable. Mais en tant que rabbin, je sais que la littérature rabbinique est basée sur l'interprétation de textes qui n'est justifiable que parce que le texte est parfait et donc, si on veut, dans cette sainteté-là. Donc, quelque part, moi, je ne veux pas me débarrasser de l'ensemble de la littérature rabbinique qui, d'un seul coup, serait sans aucune validité si le texte n'était simplement qu'une série de ratures et de corrections au fur et à mesure.
Oui, vous êtes loyal à votre tradition.
Oui, oui. Mais ce qui est le plus fondamental pour moi, au-delà de ça, c'est un autre problème. C'est que dans l'approche que préconise Jean-Pierre Castel. Le problème, c'est vous vous attaquez au texte en pensant que changer le statut du texte change la nature humaine. Moi, ce que je pense, c'est que la tradition juive ne s'attaque pas au texte, elle s'attaque à la lecture humaine du texte. Est-ce que l'on change l'humain ou est-ce que l'on change le texte ? Là, je pense qu'il y a une approche qui est extrêmement différente, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a un qui a plus de succès que l'autre. C'est simplement de dire, moi, mon approche, c'est pas la problématique du texte, c'est la problématique comment réussir à faire en sorte que je responsabilise le lecteur lambda, et pas celui qui est simplement dans une bibliothèque, par rapport à un texte qui est celui qu'il est, mais le rendre responsable et éventuellement l'amener à contourner lui-même la propension, sa propension à la violence pour laquelle il va retrouver des racines dans le texte.
Oui, Jean-Pierre Castel, vous allez un peu loin quand même. Quand vous dites, finalement, il faut désacraliser. Pour arrêter avec cette violence, sortir de cette impasse, désacralisons les textes, alors tout, la Torah, la Bible, le Coran, etc. Désacralisons. Et puis voilà, disons que finalement, c'est comme l'Iliade et l'Odyssée, quoi. On peut, voilà, ça, ce statut-là, ça, voilà, ça vient des hommes, ça a été écrit par les hommes. Là, vous allez un peu loin, non?
Écoutez, j'ai cherché des remèdes. Et partant du diagnostic, suivant lequel, donc, c'est bien la prescription de violence contenue dans ces textes et le fait que ces textes sont sacrés, c'est bien cette sacralité qui, je reprends les mots de David Meyer, qui a, de fait, dans le passé, déresponsabilisé le lecteur. Un texte humain, on le prend, on est librement critique par rapport à lui, un texte sacré, c'est quand même plus difficile. Alors, si j'ai été chercher des représentants des trois religions, c'est parce que je me suis bien dit, demander à des religions de désacraliser leurs textes, c'est quand même,
ça va pas être facile,
c'est quand même un peu paradoxal. Et donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers eux, en me disant qu'ils seraient sans doute plus savants que moi et plus experts pour trouver quelle serait la bonne démarche pour combattre donc cette propension à la violence. Mais je reviens sur la question, est-ce que c'est l'homme, est-ce que le texte? Évidemment que c'est les deux.
Mais c'est l'homme qui est violent, d'abord.
Excusez-moi, l'homme, bien sûr, a toujours été violent, mais comment se fait-il, je reviens à mon point de départ, que les polythéistes n'ont jamais connu de guerre de religion? C'était des hommes, et pas spécialement pacifiques.
Bon, il y avait des sacrifices humains, quand même, temps en temps, non?
Rome avait condamné les sacrifices humains, non, ça c'est de l'histoire, et puis il y a eu des sacrifices humains dans la Bible, donc non, je pense que le sacrifice humain est un mauvais
bon, alors
sujet.
prenons l'Inde aujourd'hui, polythéiste.
Depuis la fin, jusqu'à la fin du 19e siècle.
C'est pas toujours très calme en Inde.
Jusqu'à la fin du 19e siècle, personne jusqu'à maintenant, aucun historien n'a été capable de me sortir une violence doctrinale, religieuse, au nom de la doctrine, commise dans un peuple, dans une civilisation polythéiste. Depuis le 19e siècle, il ne vous a pas échappé que l'Inde a été colonisée, que la mondialisation progresse, et cette mondialisation exporte les idées occidentales. On pourrait en parler de...
Alors c'est l'Occident maintenant.
On pourrait parler des violences japonaises pendant la guerre sino-japonaise au début du 20e siècle, et le discours tenu par les maîtres zen à l'époque, c'était un discours avec un vocabulaire qu'on croirait sorti de la Bible. J'ai interrogé plusieurs spécialistes de la civilisation japonaise qui m'ont donné l'explication, mais c'est l'époque Meiji. À l'époque Meiji, le Japon est allé chercher son modèle au Japon, en Occident.
David Meyer.
Il y a quand même quelques points sur lesquels il faut réagir de façon assez rapide par rapport aux propos de Jean-Pierre Castel. Le premier, c'est les exemples des sacrifices humains dans la Bible. L'enseignement fondamental quand même du texte de la Torah, c'est l'interdiction des sacrifices humains.
Ce que je veux dire, c'est que les religions monothéistes ne sont pas les seules.
Le sacrifice d'Isaac, parlons-en quand même.
Le sacrifice d'Isaac, parlons-en justement, c'est le non-sacrifice. Le sacrifice d'Isaac, c'est le non-sacrifice.
C'est le refus du sacrifice.
C'est le refus du sacrifice. C'est la tentation du sacrifice, bien évidemment. C'est la tentation du sacrifice. Et les lectures responsables du texte du sacrifice d'Isaac sont des lectures dans lesquelles le test auquel Abraham est soumis n'est pas le test de l'écoute d'une prescription qu'il entend et qu'il va accomplir parce que le texte est sacré ou parce que l'ordre est sacré, parce qu'il vient d'en haut. Le test d'Abraham, c'est malgré le fait que ça vient d'en haut, est-il suffisamment responsable pour ne pas le faire? Et que faut-il pour qu'il ne le fasse pas? A-t-il réussi le test ou pas? Je ne sais pas, mais de toute façon, c'est toujours une question qui demeure. Alors, il faut aussi réagir quand même sur le quand vous dites il n'y a pas de texte humain qui génère de la violence parce que c'est pas prescriptif. Bon, il me semble que Mein Kampf fait quand même partie des textes humains qui a généré une certaine violence qui, elle, n'est pas particulièrement religieuse. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ça.
L'URSS, la Corée du Nord, la religion.
Je termine avec un point supplémentaire qui me semble important. C'est prescription lié à la sacralité du texte. Je pense que, au contraire, moi, l'une des propositions de réponse que j'ai, c'est de dire, au contraire, il faut resacraliser
le texte. Et réenchanter
le texte, donc en resacralisant le texte, si vous voulez, parce que ça veut dire quoi? Un texte sacré, dans le sens juif du mot sacré, c'est-à-dire un texte soit simplement différent, puisque le mot sacré est là, attention, piège de traduction, le texte n'est pas sacré, il est différent. Okay? Un texte différent, c'est un texte que je ne peux pas m'approprier. Plus vous sacralisez le texte, moins vous pouvez, en théorie, vous l'approprier. Vous ne pouvez pas en dire « Ah, ben j'en comprends le contenu ». C'est bien pour ça d'ailleurs que le texte révélé de la Torah est un texte qui échappe à la lecture immédiate, puisqu'il n'est pas vocalisé. Donc vous ne pouvez pas vous approprier un sens immédiat. Et c'est un peu ça où, quelque part, on a ce sentiment qu'il faut faire attention. D'une part, à la problématique de traduction, qui quelque part font un peu l'impasse sur des subtilités qui finalement sont subtiles mais sont essentielles à la compréhension du texte, et que peut-être la resacralisation du texte, si on arrive à l'enseigner, ça c'est la condition sine qua non, si on arrive à l'enseigner, devient à ce moment-là un élément qui permet de garder une distance. Le texte sacré de la Torah, je n'ai pas le droit de le toucher. Je n'ai pas le droit de le toucher, non pas parce que c'est sacré et que je vais mourir en le touchant, c'est parce que j'ai pas le droit de toucher le sacré. Il y a une distance qui s'impose. Et ça, je crois que c'est un des éléments d'enseignement important sur la question.
Jean-Pierre Castel.
Oui, donc, sur les sacrifices humains, donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que la fin des sacrifices humains n'est pas l'apanage, n'est pas le monopole des religions abrahamiques. Bon. Deuxièmement, ce que j'ai dit sur les textes sacrés prescriptifs, Mein Kampf n'est pas, à ma connaissance, un texte sacré, dit le manifeste de Lénine. Cela étant, puisque vous m'avez entraîné sur ce terrain-là, moi, je suis volontiers, Raymond Aron et bien d'autres, pour parler des religions séculières. Je pense que dans les totalitarismes que nous avons connus au XXe siècle, l'emprunt de ces idéologies au patrimoine, au paradigme du monothéisme est aveuglant. Le parti unique, j'ai même trouvé un texte de Jean-Paul II, je crois, à ses cardinaux, confessant que la Gestapo avait eu comme ancêtre l'Inquisition. Enfin, donc, on peut trouver donc le parti unique, le livre sacré, le leader charismatique. C'est surtout donc ce rejet du pluralisme. Ceux qui le font, encore une fois.
Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de faire de l'amalgame, quand même?
Le fond, non, parce que
je reviens.
Le fond de ma critique des religions abrahamiques, c'est le rejet du pluralisme religieux. Hein, quand je dis le dieu jaloux, qualifier toutes les religions de fausses, c'est ça, c'est le rejet du pluralisme. Et ce rejet du pluralisme, donc, on l'a retrouvé en politique avec les idéologies totalitaires. Mais la lueur d'espoir que j'ai quand même, c'est que, au sein de chacune de ces trois religions, il y a eu des hommes qui ont prôné ce pluralisme religieux. Hein, il y a eu Mendelssohn dans le judaïsme, il y a eu Rumi dans l'islam, qui a dit les lampes sont différentes, mais la lumière est la même. Et il y a eu un certain John Hick dans le christianisme. On trouve même chez André Gounel, théologien protestant libéral, une phrase disant « Ça a été une erreur de sacraliser les textes ».
Des religions du monde, nos invités sont David Meyer et Jean-Pierre Castel pour le livre « Lutter contre la violence monothéiste » publié aux éditions L'Harmattan. Je me tourne vers vous, David Meyer. La question de l'élection, puisqu'on parle effectivement de l'exclusivisme des religions, ce sentiment de se sentir plus fort que l'autre, plus dans la vérité que l'autre, etc. Bon, la question de l'élection dans le judaïsme.
C'est une question difficile. Il n'y a absolument aucun doute. C'est un des points pour lesquels le judaïsme n'aime pas trop parler de la notion d'élection, non pas par la peur du micro qui diffuse, mais simplement parce qu'il y a un malaise quelque part avec la notion d'élection.
Alors vous avez la notion donc de peuple élu. Hein.
Et la notion de peuple élu. Alors en fait, bien sûr, tout dépend de la façon, là encore, dont on traduit et on comprend la terminologie. Il est évident que moi, je ne m'inscris pas dans une tradition qui considère que le peuple élu, c'est un peuple supérieur. Je pense qu'il n'y a aucune supériorité dans l'élection. Il y a simplement l'affirmation, à mon sens, d'un particularisme. Et là, je pense que quand on traduit la notion d'élection par l'idée de particularisme, particularisme dont on peut être fier, d'ailleurs, et là, on se rapproche un peu plus de la traduction d'élection, si vous voulez, donc une sorte de fierté intérieure par rapport à ce particularisme. Je pense qu'il y a là, au contraire, non pas un danger, mais qu'il y a là la voie d'une tolérance réelle dans un monde multiple. Un monde multiple, ce n'est pas un monde uniforme. Ce n'est pas un monde dans lequel je ne suis pas intéressé par ce que font les autres, parce que finalement, je ne regarde que ce que je fais moi-même. Un monde multiple, un monde divers, c'est un monde qui accepte de vivre ensemble, de coexister avec les particularismes de chacun en affirmant les particularismes de chacun. C'est ça la richesse du vivre ensemble. Si c'est pour ne pas affirmer les particularismes mais pour fondre la masse dans un magma démographique, c'est pas nécessairement très intéressant ce modèle-là. Donc moi évidemment je soutiens une lecture de l'élection qui est une lecture particulariste de l'élection par rapport simplement au commandement par rapport à la voie que propose le judaïsme. Et là, ça revient un petit peu, si vous voulez, à une façon de répondre à la tentative de proposition que fait Jean-Pierre Castel, qui est de dire, mais bon, désacralisation du texte ou pas, le problème c'est aussi de savoir quelle solution donne sens ou a un sens dans la communauté de ses propres fidèles. Quelle est la solution qui est audible ? Venir avec des solutions qui ne sont pas audibles, ça ne sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ce qu'il faut, c'est trouver les termes avec lesquels une communauté spécifique dans son particularisme est capable de se sortir de sa propre propension à la violence malgré les textes qui sont écrits. Et là, on revient quelque part sur cette notion d'affirmation du particularisme. Donc moi, c'est évidemment comme ça que je lis la notion d'élection. Alors, vous avez des penseurs, et j'en cite un dans le livre, Richard Rubinstein en particulier, qui lui va beaucoup plus loin, mais pour des raisons tout à fait différentes. Il dit, il faut renoncer complètement à l'élection. Il dit simplement, nous sommes un peuple tout à fait comme les autres, et puis renonçons à l'élection. Et puis au bout de son déroulement, il dit, bon, finalement, c'est pas possible, on peut pas arriver à faire ça, parce que ça va faire sombrer le judaïsme. Mais la raison pour laquelle il fait ça, c'est pas parce qu'il a peur des violences commises au judaïsme, c'est parce qu'il a très bien compris que c'est la notion d'élection qui a généré l'antisémitisme. Et que, donc là, quelque part, on est dans une problématique tout à fait inverse, mais on doit évidemment prendre ça en compte aussi, c'est une autre forme de violence.
Jean-Pierre Castel.
Oui, j'entends volontiers ce que dit David Meyer sur la recherche du particularisme, et la recherche du particularisme en soi n'a rien de choquant ni de nécessairement violent. C'est pour ça que moi, plutôt que le concept de peuple élu, le concept qui m'a accroché, c'est celui d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est vraiment un concept inventé par le judaïsme et repris par les deux autres religions abrahamiques. Et c'est lui, donc, dont la traduction en français courant, c'est dire les autres, c'est les fausses religions. Les autres religions sont des religions fausses. C'est ce concept-là qui me paraît à l'origine de la violence beaucoup plus que celui du peuple élu. Et alors, sur le sujet de l'idolâtrie, j'ai été très admiratif des retournements, des développements qu'a fait David Meyer. Enfin, je lui laisse la parole et qu'il pourra mieux l'expliquer de vive voix.
Oui, alors, David, oui.
Pour une fois, puisque nous sommes d'accord, j'en profite pour rentrer directement sur la question parce que moi, je note que, évidemment, vous parlez de l'idolâtrie comme concept. Vous dites c'est le concept inventé par le récit narratif du texte de la Torah, du Dieu biblique, etc. Et puis ensuite développé pratiquement à l'infini. Et en fait, pour quelqu'un qui connaît le judaïsme de l'intérieur, vous pensez à l'idolâtrie. Ce à quoi vous pensez en tout premier, c'est le traité talmudique qui s'appelle Avodah Zarah, qui est le traité talmudique sur l'idolâtrie. Et donc on se penche et on se dit, bon mais que dit la tradition rabbinique sur l'idolâtrie, puisque c'est un tel problème. Et ça commence par quelle phrase ? En disant, 3 jours avant les fêtes idolâtres, vous n'aurez plus le droit de faire du commerce avec les idolâtres.
Ça veut dire quoi, ça ?
Eh bien, ça veut dire que tous les autres jours, vous avez le droit. Ça veut dire que, quelque part, bien sûr, le judaïsme a un problème avec l'idolâtrie. Le judaïsme a une problématique en tant que monothéisme avec des dieux, avec le polythéisme. Le judaïsme a une problématique avec l'idolâtrie, si l'idolâtrie, c'est la pensée unique qui génère un système de pensée dans lequel il y a une hiérarchie absolue et il y a un sommet qui n'est jamais re-questionné. Dans ce sens-là, bien sûr, le judaïsme a une problématique. Mais ce que fait le judaïsme pour contourner le problème de cette violence potentielle qui existe dans le texte, je le reconnais, hein, volontiers, c'est de dire, plutôt que de parler de la théorie, du concept d'idolâtrie, parlons des idolâtres. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en parlant des idolâtres, mais en fait, il y a des relations, bien évidemment. Donc personne n'a jamais tué, il n'y a aucun juif qui a tué des idolâtres dans l'histoire réelle du peuple juif. Personne n'a tué des idolâtres. Quelque part, le fait que personne n'a tué des idolâtres dans le judaïsme, ce n'est pas simplement un fait de l'histoire, un hasard historique, parce que le judaïsme n'avait pas le pouvoir. C'est vrai aussi. Mais je pense que c'est aussi parce que quelque part là, il y a eu une façon de contourner la théorisation d'un problème en passant par son humanisation. C'est bien la problématique de la relation aux idolâtres. Et certes, les relations aux idolâtres peuvent être cadrées de telle façon, entre quelques jours avant, vous n'avez pas le droit de faire du commerce avec eux, parce que si vous vendez quelque chose, peut-être ils vont utiliser cet objet pour l'idolâtrer pendant leur cérémonie, donc vous n'avez plus le droit, mais le reste du temps, vous avez le droit d'être avec eux. Et donc là, quelque part, le texte du Talmud vient dire exactement le contraire de ce que semble dire le texte de la Torah. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse.
Et est-ce que ça n'est pas le propre, justement, d'un texte comme la Torah ou le Coran, d'avoir un peu tout et son contraire, à certains moments?
Ah, moi, je
ça
pense...
n'est pas le propre.
Est-ce que je peux revenir?
Oui,
bien.
Jean-Bert Castel.
Je reviens d'abord sur les propos de David Maillard, avec lequel je suis d'accord. Mais simplement, il dit le Talmud a su. Or, moi, j'ai dit l'invention de l'idolâtrie, elle est dans la Torah. Alors, le rabbinisme, qui n'est pas le judaïsme biblique, le rabbinisme a su, effectivement, et c'est ça que m'a appris en particulier David Maillard, a su trouver une méthode, qui est la sienne, le midrashikwe, je crois que se dit en termes savants, pour établir une tension entre la tradition écrite, la Torah, et la tradition orale, le Talmud. Et le résultat a été effectivement tangible, comme le dit David Maillard, aucun idolâtre n'a été massacré, il y a eu quelques excommunications. Enfin bon, il n'y a pas eu le même genre de violence dans l'histoire du rabbinisme que dans l'histoire du christianisme. Alors bien sûr, le contexte social et politique était totalement différent, mais je suis d'accord avec David Maillard que dans la pensée religieuse elle-même, vous aviez trouvé une solution qui aujourd'hui, malheureusement, s'avère non durable.
Mais on peut dire une
vous
astuce.
Vous aviez trouvé une solution.
Quelque part,
ce
je que pense
n'a pas
que
trouvé le christianisme.
On retrouve dans cette problématique-là exactement les termes de la question que vous m'avez posée il y a quelques instants, qui est de dire, est-ce que ce n'est pas finalement le propre même du texte religieux de trouver tout et son contraire? Et dans ce que vient de rappeler Jean-Pierre Castel, entre la tradition écrite et la tradition orale, la loi écrite, la loi orale, vous êtes justement dans la dualité. C'est la même dualité que ce que vous trouvez entre le verset A et le verset B. Et la problématique, c'est que oui, bien sûr, bien évidemment, vous êtes face à des contradictions, parce que le but principal du texte sacré, c'est de mettre l'homme face à ses responsabilités devant un texte qui dit des choses contraires.
Oui, il faut que l'homme soit bien éduqué aussi, c'est ça le problème.
Et quelque part, le challenge réel, c'est comment est-ce que la religion éduque ses fidèles? Et moi, je ne vois pas d'autre solution que simplement d'enfoncer le clou de l'éducation. Il n'y a que l'éducation. Alors, dans le judaïsme, on est peu nombreux, c'est encore possible. C'est sans doute beaucoup plus difficile dans le monde chrétien et dans le monde musulman, ne serait-ce que par la masse démographique. Et enseigner la responsabilité de cet enseignement est une tâche beaucoup plus ardue de ce point de vue-là.
La création de l'État d'Israël est une sorte de provocation à vous lire, David Meyer, pour le judaïsme, qui n'avait pas été confronté jusque-là à la question du pouvoir politique.
Alors, je ne sais pas si j'utiliserais le mot provocation, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui a créé une sorte de tremblement de terre dans la pensée juive, parce que c'est vrai que pendant 20 siècles, la pensée rabbinique n'a pas envisagé de façon sérieuse l'existence et l'utilisation du pouvoir. Donc en ce sens, d'un seul coup, le judaïsme s'est retrouvé confronté d'une part à un retour à la terre, qui là, d'un seul coup, devient
sacralisé.
Un objet matériel potentiellement sacralisé, et on en voit les dégâts aujourd'hui, bien évidemment. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui est assez difficile, mais il y a aussi le deuxième aspect difficile, c'est la pratique du pouvoir. Et là, bah, évidemment, toute la théorie de l'éthique juive et de l'enseignement juif et de la responsabilité du lecteur, de la recherche du lecteur fort, est confrontée à une réalité de décision dans un monde extrêmement complexe auquel le judaïsme n'était pas préparé. Et évidemment, on se prend les pieds dans le tapis. Et la tradition juive, ici, a énormément de mal à se mettre à la hauteur éthique de ce que la responsabilité du pouvoir demande.
C'est pour ça que je parlais de provocation. Oui, Jean-Pierre Castel.
Simplement, ce que je veux dire pour conclure d'une parole un peu simpliste, c'est que tous les efforts du rabbinisme ou de l'exégèse chrétienne sont nécessaires, sont louables et même nécessaires, mais encore une fois, face à la sacralité du texte et à la lettre du texte, la conclusion que l'histoire nous impose, c'est l'exégèse ou la dualité ou le midrashikwe passe, la lettre reste. Et c'est face à ce danger de la lettre qui reste que j'appelle mes trois partenaires à trouver
alors,
des solutions efficaces.
Justement, on arrive à la fin de notre émission. Quelle solution trouver? Alors vous, c'était effectivement clair, c'était donnons à...
J'avais une hypothèse,
au
oui.
Texte, donnons au texte un statut, j'allais dire, humain, hein, voilà. Proprement humain. Comment trouver cette maturité religieuse? En fait, c'est ça la question. C'est la maturité religieuse.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le texte de David Meyer, c'est qu'il propose des solutions concrètes.
Oui, j'en propose pas beaucoup, mais j'en propose quelques-unes. Il y en a une que je peux mentionner qui est assez facile à imaginer et qui est une réalité quand même du judaïsme aujourd'hui, mais qu'il faut réintroduire de façon systématique. C'est tout simplement, de façon très bête, de refuser les traductions. De refuser une traduction de la Bible. Ça ne devrait pas exister, une Bible en français, ou une Torah en français, ou en anglais, ou dans n'importe quelle langue. Parce que dans la tradition rabbinique qui a fonctionné, et donc je me base sur celle-là, vous avez jamais la traduction, vous avez la traduction avec le commentaire A, le commentaire B qui dit le contraire du commentaire A, le commentaire C, le commentaire D. Et vous avez aujourd'hui dans les synagogues, vous avez des livres qui s'appellent des Chumashim, qui sont des livres dans lesquels vous avez le texte de la Torah, et ce que vous trouvez dans ces livres-là, c'est que vous avez effectivement le texte en hébreu, la lettre, si vous voulez, en face vous avez une traduction, et puis tout autour de la page, à côté, droite, gauche, au centre, en haut, en bas, vous avez des commentaires sur chacun des mots qui sont des commentaires différents. Et il y a parfois des textes qu'on offre dans les synagogues qui vont un pas plus loin, c'est-à-dire que les commentaires que vous trouvez ne sont pas que des commentaires juifs. Vous avez des commentaires qui viennent des commentaires de la tradition de l'Église, vous avez des commentaires qui viennent de la tradition du Coran, et qui quelque part, il ne s'agit pas de le faire à coup de massue, mais des petites touches.
Mais vous rendez compte, c'est vous adressez à une élite là.
Justement, là je ne m'adresse pas à une élite. Je m'adresse à ce qui est distribué aux fidèles dans une synagogue. C'est ça ce que vous distribuez aux fidèles dans une synagogue quand vous rentrez pour écouter la lecture de la Torah. Vous n'avez pas le texte en hébreu avec sa traduction. Point final. Donc ce n'est pas qu'une élite.
D'accord. Solution numéro 2.
Alors, la solution numéro 2, c'est que je pense que plutôt que de désacraliser le texte ou d'humaniser le texte en ce sens-là, il m'a semblé que ce qui était important, c'était peut-être de réfléchir sur une humanisation de la hiérarchie des commandements. Puisqu'on parle d'un texte prescriptif, on a le texte prescriptif, certes, mais on peut ensuite hiérarchiser les commandements, c'est-à-dire de dire, bon, bah, finalement, y en a-t-il qui sont plus importants que d'autres? Qu'y a-t-il vers le sommet? Plus je m'approche du sommet éthique de cette hiérarchie, combien de commandements je peux avoir? Comment les uns se mettent à jouer contre les autres? Ça, c'est tout à fait en dehors de la lettre du texte, et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait humain aussi. Donc, il y a quelques idées comme ça que j'ai essayé de développer.
Et voilà pourquoi je me félicite d'avoir trouvé David Meyer, qui réfléchit donc à des solutions sur le texte. Comment faire en sorte que quand on met le texte à disposition du croyant, le lecteur soit poussé à une vision pluraliste des choses. Donc, ce que je regrette, c'est que Jean-Michel Baldamé, pour le christianisme, et puis que mes imams absents, qui n'ont pas voulu participer au texte, considèrent que ce reste au discours, le problème est dans l'homme, le texte n'y est pour rien. À mon avis, c'est une esquive, c'est une façon de ne pas progresser. Je veux dire, quand on a n'importe quel médecin vous dira quand vous avez, il faut d'abord reconnaître sa maladie pour se soigner. Bon, tant qu'on n'a pas reconnu le problème, la guérison est problématique.
Ces portes de sortie, j'allais dire, David Meyer, que vous proposez pour le judaïsme, est-ce que l'on peut considérer qu'elles sont valables également aujourd'hui, par exemple, pour l'islam?
Je ne sais pas si elles sont valables également pour l'islam. Je crois que ce qui est certain, c'est que la tradition juive a une certaine responsabilité par rapport aux dérives violentes dans d'autres traditions monothéistes. Et ça, c'est un point que Jean-Pierre Castel m'a adressé en disant quelle est la responsabilité du judaïsme finalement par rapport aux dérives du christianisme ou de l'islam, puisque le judaïsme est un peu à la base de tout ça. Donc je crois qu'il faut effectivement prendre cette question assez sérieusement et de dire, bon, bah, si la tradition juive a sa propre façon interprétative de peut-être essayer de contourner les textes ou de trouver des solutions qui lui sont propres, évidemment, ces solutions ne sont pas transposables chez les autres, mais ce qui ne veut pas dire que ma responsabilité s'arrête là. Donc, je pense que la responsabilité ici, c'est d'effectivement chercher à engager des penseurs d'autres traditions religieuses, donc du christianisme, de l'islam, par rapport à ces problématiques-là, et de pas lâcher le morceau, d'une certaine façon. et de dire, bon voilà, moi je cherche à trouver une solution en faisant ci, ça et autre chose, mais de votre côté, quelque part, que faites-vous? Parce que je suis aussi le dépositaire d'une tradition qui a généré ce genre de violence. Donc là, je pense que ma réponse, elle est plutôt de l'ordre d'une extension de la responsabilité plutôt que d'une extension des solutions. Alors évidemment, ce n'est que la moitié du verre, mais c'est déjà quand même un commencement de quelque chose. Et en tous les cas, c'est une responsabilité que je prends très sérieusement et à laquelle, j'avoue, je n'avais pas été attentif du tout par le passé. Et c'est Jean-Pierre Castel qui a mis le doigt sur ça en disant, bon, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose?
Est-ce qu'il ne faut pas en quelque sorte talmudiser, je dirais, l'approche coranique?
Oh, je serais tout à fait favorable à une grande talmudisation globale.
Talmudisation générale. Alors, pour conclure, on terminera par cette notion de maturité religieuse. La maturité religieuse, c'est quoi?
La maturité religieuse, c'est la capacité, évidemment, à prendre une certaine distance par rapport à la lecture, un certain regard critique. La maturité, c'est aussi être passé par l'étape du questionnement, l'étape du désenchantement, d'une certaine façon aussi, d'une vision simpliste des choses. Il n'y a pas de raccourci dans l'histoire, et ces responsabilisations, cette maturité de la religion, eh bien, elle avance extrêmement lentement. Tant qu'elle avance, il y a encore un peu d'espoir, même si, évidemment, le rythme n'est pas satisfaisant pour ceux qui souffrent de ces violences qui sont commises au nom de la religion, et ça, c'est une problématique bien, bien réelle.
Oui, il y aurait aussi une réflexion à mener sur le mot « vérité ». Le mot « vérité », qui est l'un des mots les plus fréquents qu'on trouve dans la Bible.
Son origine grecque, d'ailleurs.
Aletheia. L'aletheia est passée d'une notion d'autorité de vérité à la notion moderne de vérité rationnelle. Or, quand vous lisez « Je suis le chemin, la vérité et la vie », la vérité dont parle le Christ, c'est évidemment une vérité d'autorité, c'est pas une vérité rationnelle. Or, toute la tradition chrétienne martèle qu'il y a identité entre les deux, il n'y a qu'une seule vérité, et que donc la pensée chrétienne est forcément universelle, puisque la raison, la vérité rationnelle, est universelle. La vérité rationnelle est universelle, mais pas la vérité d'autorité. La vérité d'autorité ne vaut que pour ceux qui reconnaissent la dite autorité. Faire l'amalgame entre vérité d'autorité et vérité rationnelle permet toutes les dérives impérialistes que le christianisme et l'islam ont démontrées dans le passé.
Je vous remercie Jean-Pierre Castel et David Meyer donc pour votre participation à cette émission. Je rappelle le titre de ce livre que vous avez coécrit ensemble avec Jean-Michel Maldamé et Abderrazak Sayadi, « Lutter contre la violence monothéiste, trois voix répondent à 10 questions » et c'est publié aux éditions L'Harmattan. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Olivier Raoul vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
E sem dizer nada, fiquei sem palavras, tiraste-me o chão. Digo-te adeus, queria ficar e a cada partida. Vou de asa ferida que quer pousar. Sem ti a chuva é forte na janela do meu quarto. Sem ti o vento norte anda louco por aí. Sem ti o mar se agita entre a terra e o céu. Sem ti sou metade. Sem ti não sou eu.